À lire, écrire, à calculer, tu as envie d'apprendre en petit groupe tout en t'amusant? Inscris-toi à Tout lire. À Tout lire, ce n'est pas seulement pour apprendre à mieux lire, écrire et calculer. C'est aussi un lieu pour s'initier à l'ordinateur et à Internet. C'est un milieu de vie accueillant et chaleureux avec tout plein d'activités sociales pour prendre une place active dans la société. Viens nous voir au 276 Saint-Vallier-Ouest dans le quartier Saint-Sauveur. Appelle-nous au 418-524-9353 ou visite le atoutlire.ca. Et c'est gratuit!
Le dimanche midi, place aux livres à CKIA FM. Chaque semaine, l'équipe du magazine littéraire Épilogue vous propose critiques, tables rondes, entrevues et actualités sur tout ce qui grouille et grenouille dans le monde du livre d'ici et d'ailleurs. Épilogue, dimanche midi, sur les ondes de CKIA FM.
Méconnus. Ça vous est sûrement arrivé, vous aussi, de vous procurer un album juste pour une pièce, une chanson, un succès qui vous a plu. Après écoute, il y a un ou deux airs que vous n'aviez jamais entendus qui attirent votre attention et qui vous restent dans la tête. Parce que trop beau. Bien, l'émission Méconnue est là pour ça. Musique éclectique d'artistes connus qui saura vous surprendre au détour. Animée par Claire Reny, les dimanches après-midi de 13h à 15h sur les ondes de CKIA FM 88.3. À dimanche.
Quoi faire en fin de semaine? En panne d'idées? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Écoutez La vie de quartier sur les ondes de CKIA FM tous les samedis et dimanches de 11h à midi. Revue de presse, chroniques, suggestions de sortie, c'est tout ce qu'il vous faut afin de profiter pleinement de votre week-end. En prime, j'accompagne le tout de jolies chansons francophones pour votre plus grand plaisir. Alors, je vous attends tous les samedis et dimanches dès 11h à CKIA pour La vie de quartier. C'est un rendez-vous.
Vous avez des droits.
Êtes-vous bien sûr de les connaître?
Ici Julien Bilodeau, en compagnie de l'avocate
Maud Bégin-Robitaille du Centre de justice de proximité de Québec.
Nous vous donnons rendez-vous
tous les lundis à midi
sur CKIA FM.
Hi, this is Buffy St. Marie. You're listening to CKIA 88.3 FM. Stay tuned.
Starwalker, he's a friend of mine. You've seen him looking fine. He's a straight talker. He's a Starwalker. Don't drink no wine.
Squatel, cette semaine, on est en compagnie de Riff avec le choix musical et à la mise en onde. Et c'est le grand retour d'Evelyne au micro après une absence de plus de 8 mois. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être là cette semaine. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale pour notre émission. On va recevoir Véronique Laflamme du Frappru qui va venir nous parler de logements sociaux et d'une grande manifestation nationale qui va avoir lieu ce samedi à Québec. Et sinon, en première partie d'émission, on va écouter le choix musical de Riff et je peux vous glisser quelques mots sur mon voyage et les féministes extraordinaires que j'ai rencontrées et les dynamiques de genre et de pouvoir que j'ai expérimentées. Mais on va commencer tout de suite en musique, puis ça va me permettre de placer un petit peu mes idées. Qu'est-ce qu'on écoute, Riff?
On va commencer avec un groupe qui s'appelle Sisters avec Gender Riot.
Woohoo!
Peace, the more than what we see. But hate and racism out, so we can be
De CKIA FM, vous écoutez Ainsi squat-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. C'est Evelyne au micro et je reviens de voyage. Pour celles et ceux qui lisent le site web d'Ainsi squat-elle, vous avez pu lire certaines de mes chroniques que j'ai écrites à distance. Donc, j'étais dans la région de San Francisco pour un petit moment, mais ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de mon voyage à voile que j'ai fait de San Francisco vers le Mexique et plus précisément, le dernier bout du voyage où j'étais chef de bord sur un petit bateau de 36 pieds. Donc, assumer une position de responsabilité comme ça pour une féministe anarchiste, c'est très spécial. Et donc, j'ai imposé l'égalité sur mon bateau comme principe d'organisation de base. Ça fait un petit peu contradictoire, mais je vous explique. Sur mon bateau, qui était en fait le bateau d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle International Rescue Group, qui est un organisme très, très récent, très nouveau, qui essaie de placer des bateaux à des endroits stratégiques pour éventuellement pouvoir intervenir en cas de désastre naturel. Dans un autre micro, à un autre moment, je pourrais vous parler de ce que je pense de ces missions-là humanitaires un peu du nord vers le sud. Là, vous vous doutez un petit peu que j'ai des petites critiques. Mais si on met ça entre parenthèses, moi, cette expérience-là m'a donné l'occasion d'expérimenter à une petite échelle, l'échelle d'un petit bateau, là où est-ce qu'on est 4 personnes, 5 tout au plus, un petit modèle d'organisation ou un petit modèle de micro-société que je trouvais très, très intéressant, rempli de contradictions, mais où on a retrouvé, aux surprises, des dynamiques de genre, des dynamiques de pouvoir et une division sexuelle du travail. C'était vraiment spécial. J'essayais d'avoir toujours des équipages paritaires, donc 2 hommes, 2 femmes. J'essayais de distribuer le travail de manière égalitaire, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai des tâches d'enseignement, je connais certaines choses plus que d'autres qui sont, par exemple, débutants en voile, que je peux éviter de cuisiner ou que je peux éviter de laver la toilette quand c'est mon tour. J'essayais vraiment d'avoir une répartition égalitaire du travail. J'essayais aussi d'avoir une répartition égalitaire ou égalitaire plus du partage des dépenses. Par exemple, c'était pour partager les dépenses, on avait instauré une genre de contribution volontaire où les gens contribuaient selon l'ampleur de leurs moyens, selon ce qu'eux et elles trouvaient équitable. Et par ailleurs, ben tout le monde avait quand même les mêmes priorités et la même charge de travail. Pour moi, c'était très important que chacun apprenne à cuisiner pour les autres. Cuisiner sur un bateau, c'est une des tâches les plus difficiles. Donc, c'est pas parce que moi, je sais cuisiner que je sais cuisiner sur un bateau. Donc, le niveau d'apprentissage pour quelqu'un, par exemple, on était avec un homme d'un peu plus d'une cinquantaine d'années qui disait qu'il ne savait pas cuisiner, qu'il n'avait jamais cuisiné et que c'était un grand apprentissage pour lui, mais on lui a fait comprendre que c'était un apprentissage pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous et qu'il devait faire sa part quand même. De la même façon, on était avec un jeune homme de 19 ans, tout droit sorti de chez ses parents, qui lui non plus ne savait pas cuisiner. Et puis, on lui a dit, ben, Écoute, ça fait partie de l'apprentissage, autant que l'apprentissage technique de la voile, c'est une tâche très importante. Et en tant que, avec ma sensibilité féministe, ce que j'ai aussi rendu très, très explicite, c'est que tout le travail invisible, tout le care, ça fait partie des tâches obligatoires aussi. Là, c'était sur ta liste, sur la liste des tâches de quelqu'un qui était stand-by, dans le fond, qui n'était pas en train de conduire, mais qui n'était pas en train de dormir non plus. C'était dans sa liste de tâches d'offrir de l'eau à la personne qui conduisait, d'offrir de la crème solaire, de se soucier si la personne apportait son chapeau, de se soucier si la personne était en train de prendre un coup de soleil, parce que ce sont des éléments qui, si on les rendait pas explicites, ben c'était les mêmes personnes qui se retrouvaient à faire ça, puis les autres personnes, quand elles étaient stand-by ou quand elles étaient dans ce rôle-là, ben ils lisaient un livre ou ils s'occupaient plutôt d'eux-mêmes. Donc, j'ai essayé de rendre vraiment explicites ces dynamiques-là, puis aussi de rendre explicite le fait qu'on déterminait ensemble, un peu de manière consensuelle, les tâches qu'il y avait à faire dans une journée. Par exemple, quand on arrivait dans un port, on avait certaines choses à réparer sur le bateau, on avait certaines provisions à faire, on avait toute une liste de choses dont on essayait de convenir ensemble. Puis une des dynamiques à laquelle j'ai été confrontée, c'est que certaines personnes qui avaient peut-être des connaissances un peu plus spécialisées en mécanique, par exemple, qui se trouvaient être des hommes dans cette situation-là, mais ça aurait pu être autrement, trouvaient par eux-mêmes des choses à réparer sur le bateau ou trouvaient par eux-mêmes des nouvelles tâches sans passer par ce processus collectif-là de priorisation du travail qu'ils avaient à faire. Donc, eux, ils avaient l'impression de faire leur part et même de faire beaucoup plus que leur part parce qu'ils étaient toujours occupés. Mais en même temps, nous, on avait l'impression qu'ils faisaient pas leur part du travail qui avait été déterminé collectivement comme nécessaire. Donc, j'ai vraiment, vraiment adoré explorer toute cette dynamique-là de rendre explicites les choses. Puis, un des outils que j'ai beaucoup utilisé, c'est un outil dont on avait parlé justement ici à InSisQuatel quand on avait fait le travail sur la monographie avec le collectif de recherche sur l'autonomie collective, c'est les check-in. Donc, faire un tour de table et pour exprimer comment on se sent, pour exprimer dans quel état on a passé notre journée, pour partager avec les autres s'il y a eu des difficultés ou si on a des choses à dire qui sont positives aussi à propos d'autres personnes. Ça, c'était vraiment spécial parce que, bon, j'avais pas nécessairement un équipage qui était habitué à faire ce genre de choses-là. Et, bon, il y avait une répartition assez genrée, là, avec les femmes qui parlaient beaucoup plus de leurs émotions et les hommes qui parlaient beaucoup plus de choses très, 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 très simples et techniques. Mais avec le temps, tout le monde s'est mis à participer à cet outil-là et ça nous a permis vraiment de régler beaucoup, beaucoup de choses, de prévenir beaucoup de conflits aussi et de rendre explicite justement ces petites frustrations-là des fois qui faisaient partie là, du quotidien. Et en tout cas, j'ai trouvé ça très, 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 très riche comme expérience et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans un autre micro, mais pour le moment, on va retourner en musique avec une pièce que Riff nous a préparée.
On va écouter Blue King Brown avec Moment of Truth.
Just beyond that horizon, a mountain of hope. See, we're coming through. to this land. So come with us, walking from shame to glory. I've seen our breed, we won't conceive. Believe it when they come, carrying guns, we make a fuss. And if they're not gonna get love, they're not with us. Said the world must be hard, the world is tough. And you might know something, but it's not enough. So one day, call you on the telephone. The next day, screaming on the megaphone. But today, there's a word upon this microphone. It won't be long, my word is strong. So get it up.
We won't take it no more. We won't take it no more.
Écoutez Ainsi Squat Tel sur les ondes de CKIA FM et c'est Evelyne au micro qui vous raconte mon voyage mon expérience de femme dans la voile en tant que chef de bord d'un bateau. Une autre chose que j'ai beaucoup appris pendant ce voyage-là, j'ai eu la chance d'effectuer des tâches traditionnellement masculines comme la mécanique diesel ou des travaux extérieurs sur les bateaux, des travaux de peinture, des travaux de remplacement de morceaux, des travaux de boiserie, etc. J'ai beaucoup gagné de la confiance en moi en essayant d'apprendre ces affaires-là vraiment sur le tas. Et ce que j'ai appris pendant que j'étais pas en charge, pendant que j'étais équipière, que j'étais comme équipière, là, sous les ordres d'un autre capitaine, c'est que même les plus expérimentés capitaines connaissent pas tout par cœur, là. Ils ont besoin de lire le manuel d'instruction qui vient avec le moteur, puis ils ont besoin de googler des choses dans l'Internet quand ils arrivent dans un port pour savoir comment faire. Et tout le monde utilise YouTube pour regarder une vidéo sur comment saigner ses lignes de diesel, tu sais. Donc ça m'a donné beaucoup de confiance parce que regarder une vidéo sur YouTube, tout le monde est capable de faire ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce que des fois, c'est un peu caricatural de dire ça, là, mais tu sais, quand les filles, on essaie de taponner sur un ordinateur ou taponner sur un moteur, on a l'impression que si on fait une gaffe, ça va exploser. Moi, j'ai utilisé cet exemple-là pour dire aux gars qu'ils pouvaient faire des expérimentations dans la cuisine aussi. Ça paraît très, très, très caricatural ce que je dis, mais je l'ai vraiment, vraiment vécu comme ça, là. J'ai appris aux gars à faire, tu sais, improviser là, dans une cuisine parce que suivre des recettes, ça, tout le monde est capable, ils l'ont toutes déjà fait. Mais bref, les apprentissages que j'ai faits au niveau de la mécanique, je les ai transférés dans la cuisine pour essayer de redistribuer les rôles et de contrer cette division sexuelle du travail-là qui se reproduit, 50 ans plus tard. Par exemple, une journée, on était au port et on avait du temps libre pour faire certaines manœuvres d'entretien sur notre moteur diesel. Et je savais que la fille qui était avec moi, elle avait des connaissances en mécanique puisque elle faisait de la moto, puis elle réparait sa moto elle-même. Et je savais que les deux gars qui étaient avec nous n'avaient aucune, mais aucune connaissance en mécanique. Ils nous l'avaient dit et tout, mais je savais aussi parce que là, je les connaissais depuis quelques jours, quelques semaines déjà, qu'ils auraient une opinion hein, sur la manière de faire les choses. Donc, je les ai envoyés faire l'épicerie, faire les provisions, qui est un petit peu plus compliqué là, que faire l'épicerie ici, là, parce que ça implique, bon, de demander son chemin, trouver un marché local, là, et tout. Et eux autres, ils étaient un peu déstabilisés par ça, mais je me suis dit qu'ils se débrouilleraient et que pendant ce temps-là, pendant que les gars faisaient les provisions, nous, les filles, on relèverait nos manches et on changerait des morceaux sur le moteur diesel. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a été très agréable et très valorisant. Une autre expérience comme ça que j'ai eue, c'était dans la marina sèche où le bateau que j'ai pris en charge était pour des réparations. J'habitais toute seule sur le bateau et, bon, tous les employés de cette marina sèche-là étaient très, très impressionnés de me voir me lever le matin, puis me relever les manches et mettre mon masque à poussière et sabler la coque de mon bateau pour préparer la surface pour la peinturer. J'ai fait la peinture moi-même avec des produits super chimiques puis plein de beaux équipements de protection. Et ça m'a vraiment questionnée sur si c'était un gars qui le faisait, ça serait normal, mais là, si c'est une fille, c'est super impressionnant. Alors, j'essayais de pas trop jouer avec ça parce que, bon, c'est facile aussi d'essayer de jouer à obtenir des faveurs un peu, obtenir des services, tout ça, parce que les gars sont tellement impressionnés. Mais là, j'essayais de garder, là... J'aurais voulu être traitée comme un gars, là, tu sais, comme... Mais pourquoi vous me traitez pas juste comme si j'étais un gars? En tout cas, ça m'a vraiment suivi ces réflexions féministes-là jusque dans le fond de Baja California. Et je suis vraiment, vraiment contente de retrouver ma gang de féministes libertaires ici à Insiscoitel et d'écouter de la musique avec vous. Riff, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la suite?
Pour la suite, on va écouter Kenny Arcana avec V pour vérité.
Oui!
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non. Fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est wanted. Qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts. Dites aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite. De même qu'il faudra faire du destin collectif une tragédie.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose. Notre lutte est légitime face à une politique d'holocauste. Qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles. Telle et telle guerre tirant profit du centre de terre mère. Au pied du mur presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler. Ou juste pour businesser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une puce dedans. Serait-ce pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'appelle prête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour...
Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine. Bénis soient ceux qui s'interposent, ceux qui construisent autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés. Tout fleuron du changement finit sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés, car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain. Et à la bouffe
téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié.
Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Coup d'éclat venu clamer à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme? Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. L'urbain sera l'exode, que le verbe nous honore. Car c'est les enfants de la terre contre les armées du vautour. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine.
C'est des conneries.
Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.
Sur les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi squat-t-elle, votre magazine féministe et libertaire préféré. Et nous recevons cette semaine Véronique Laflamme, organisatrice communautaire au Frappru, qui vient nous parler d'une grande manifestation qui va avoir lieu samedi prochain ici à Québec. Bonjour Véronique.
Allô.
Donc, d'abord, peut-être rapidement, pour celles et ceux qui sont moins familiers avec nos acronymes préférés, qu'est-ce que le Frappru?
Le Frappru, en fait, ça veut dire Front d'action populaire en réaménagement urbain. C'est un nom qui, veut pas dire grand-chose probablement aux gens qui nous écoutent. Le Frappru existe depuis 35 ans et c'est un regroupement qui, dont la mission principale est la défense et la promotion du droit au logement. On lutte principalement sur les questions liées au logement social, en fait, pour qu'il se construise plus de logement social, mais aussi plus globalement, on s'implique dans les luttes contre la pauvreté. Et quand le Frappru a été créé, les enjeux de logement dans les quartiers centraux des grandes villes, notamment, étaient directement liés avec les enjeux d'aménagement urbain. Ils le sont encore, même si ils le sont un peu moins. Mais par exemple, ici, à l'époque où le Frappru est né, dans le quartier Saint-Roch, on détruisait les logements du quartier chinois pour construire les bretelles d'autoroute. À Montréal, on détruisait des centaines de logements ouvriers pour faire place à la tour de Radio-Canada. Donc, des pans de quartiers populaires des centres-villes étaient détruits pour laisser la place à des projets de réaménagement urbain, en fait, de modernisation, etc. Donc, d'où le nom. Mais en fait, le Frappru est tout simplement un regroupement de groupes de partout au Québec, des différentes régions, de comités logement, de comités de citoyens et citoyennes, comme ici à Québec, le comité populaire Saint-Jean-Baptiste, le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, par exemple. Donc, on est formé de 155 groupes, mais de 30 groupes qui sont des groupes participants qui sont au cœur du plan d'action du Frappru, donc qui sont des membres plus actifs. Voilà.
Donc, tous ces groupes-là se sont mis ensemble pour organiser une manifestation ce samedi.
Oui, il y a une campagne qui dure depuis plusieurs mois qui s'appelle la campagne Défendons nos logements sociaux. Et c'est dans ce cadre-là que se tient la manifestation en fin de semaine. Elle s'adresse particulièrement au gouvernement fédéral. Il y a un enjeu assez grave qui s'appelle la fin des conventions, mais c'est assez difficile et complexe comme enjeu parce que ça concerne des milliers de logements sociaux, mais ça les concerne différemment, que ce soit des coopératives, des OSBL, des HLM et même au sein des coopératives et des OSBL selon le programme avec lequel les projets ont été financés, ça les concerne d'une façon différente. Alors, on peut essayer de démêler tout ça. Le but de la manif, en fait, c'est de demander au gouvernement fédéral qu'il maintienne ses subventions, principalement aux locataires à faible revenu de ces logements-là. De quoi on parle? On parle de 187 000 logements sociaux, donc soit des coopératives, des OSBL ou des HLM, partout au Québec, qui ont été financés par le gouvernement fédéral. Donc, avant 1994. Tous les logements sociaux construits avant 1994 l'étaient avec la participation du gouvernement fédéral. On se rappelle qu'en 1994, il s'est retiré complètement et là, ça a créé d'autres drames dont on parlera peut-être pas ici aujourd'hui. Mais donc c'est lui qui signait des ententes avec les projets. avant 1994. 187 000 pour le Québec. Je peux vous donner le chiffre pour Québec. C'est 24 000 logements pour Québec
ici
seulement.
À Québec,
ici à Québec, qui sont concernés directement, c'est-à-dire les logements qui ont été construits avant 1994, beaucoup dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, c'est d'ailleurs, et Saint-Jean-Baptiste, c'est d'ailleurs pour ça qu'on tient la manif au centre-ville. Donc, quand les projets se développent, ils signent une convention. Même maintenant, les nouvelles coop qui se construisent signent une entente avec le gouvernement, mais là, maintenant, c'est avec le gouvernement du Québec. Avant, c'était avec le gouvernement fédéral. Et dans cette convention-là, on dit, bon, l'hypothèque va être sur 25, 30, 35 ans. Et attaché à ça, dans le cas du fédéral, il y avait des suppléments, l'équivalent des suppléments loyers, c'est-à-dire des subventions pour les locataires à plus faible revenu. Donc, selon les types de programmes qui étaient très divers c'est, dans ce temps-là, ça portait un nom différent, là, aide assujettie au contrôle du revenu ou d'autres noms. Donc, quand la convention va venir à terme, les coops n'ont plus d'hypothèque. Bon, on va dire c'est pas grave. Si les coops sont bien gérés, s'ils ont besoin pour faire des travaux, ils vont réemprunter et tout ça. Ça les libère financièrement que l'hypothèque soit terminée. S'ils sont bien gérés, il n'y a pas de problème. Le problème majeur, ben il y a quand même d'autres problèmes et puis là il faut que le gouvernement continue à aider pour les rénovations, ça c'est un autre enjeu, mais le problème majeur c'est quand même que les locataires à faible revenu pour qui ces logements-là ont en grande partie été construits n'ayant plus de subventions vont voir des hausses de loyer de 200, 300, 400 $ et là vont être exclus de leur milieu de vie, de leur coopérative. Et c'est le cas, encore hier, je rencontrais un locataire ici dans le quartier Saint-Roch, dans une coop le long de la rivière Saint-Charles, qui est directement concerné. Lui, c'est dans 3 ans, la fin de convention de sa coop. Puis il dit, moi, je vais aller où? Je pourrais pas absorber ça, là, 300 $ Et puis, aujourd'hui, ben les logements sur le marché sont quand même, ils ont beaucoup augmenté. Hein, ils ont augmenté de plus de 30 % en 10 ans à Québec. Les gens, leur revenu n'a pas suivi. Donc, ça va créer pas des nouveaux mal logés. Des gens qui étaient bien logés vont redevenir mal logés. Puis, s'ils décident de rester dans leur milieu de vie, ils vont être la corde au cou. Donc, ils vont vraiment se rajouter aux nombreuses personnes, aux milliers de locataires qui, actuellement, paient beaucoup trop pour se loger. Donc, c'est très grave. Et dans le cas des HLM, l'enjeu, ben c'est différent parce que les HLM vont, si on veut, tomber sous responsabilité du gouvernement du Québec, qui est, dans le fond, qui est déjà responsable dans un sens. Donc, dans le cas des HLM, ben c'est pas clair parce que qu'est-ce que va faire le gouvernement du Québec? Est-ce qu'il va dire, ben je vais payer la facture, puis pas de problème, tout reste comme avant, ça va me coûter à terme 131 millions de $ Surprenant dans un contexte d'austérité budgétaire. Est-ce que le gouvernement du Québec va dire, bon, j'assume la facture, mais par ailleurs, on développe plus du tout de nouveaux logements sociaux? Ou il va dire, ben tiens, on va refiler la facture en partie aux locataires qui habitent dans les HLM, puis ils vont avoir des hausses de loyer. Il pourrait y avoir des pressions de municipalités qui aimeraient bien privatiser certains des HLM. Donc, c'est vraiment une grande inconnue. On peut pas dire c'est ça qui va se passer exactement, mais on peut dire que c'est inquiétant ce qui va se passer avec les HLM quand leurs conventions vont arriver à terme, même si les locataires de HLM, on les alerte pas de la même manière que les locataires d'OSBL puis de coop qui se retrouvent tout seuls avec leur paquet de problèmes. Puis dans certains cas, on se le cachera pas, malheureusement, il y a des coops qui se disent, bon, ben dans le fond, tant mieux, les pauvres vont s'en aller, puis nous, on va rester, tu sais, on fera rien. Donc, c'est pas toutes les coopératives qui sont mobilisées sur cet enjeu-là. Et c'est extrêmement difficile de rejoindre les locataires qui sont concernés parce qu'ils sont vraiment isolés, puis beaucoup ne sont même pas au courant de cet enjeu-là. Alors, ça arrive comme du jour au lendemain, comme une mauvaise nouvelle, puis il y a rien qu'on peut faire à l'heure actuelle. Alors, le but de la manifestation, il y en a eu une semblable l'année passée, il y a un an. On a fait des occupations de bureaux sur cet enjeu-là au Frappru. La ministre responsable de la SCHL a refusé de nous rencontrer. On alerte un peu tout le monde, mais surtout, on pense qu'il faut que la population se mobilise puis soit informée parce que ça nous concerne tous et toutes. D'abord, parce que les logements sociaux, c'est un patrimoine, dans le fond, collectif. Donc, ça nous concerne. Ça nous concerne aussi parce que la perte de ces subventions là va en fait créer des nouveaux mal logés et aussi ces logements-là ne pourront plus dans l'avenir répondre aux besoins des personnes qui ont des besoins impérieux de logement puis qui voudraient bien avoir accès à ces logements-là. Puis on le sait, le nombre de locataires au Québec qui ont des besoins impérieux de logement, il est énorme. Juste à Québec, c'est plus que 20 000 et parmi ces personnes-là, c'est de nombreuses femmes qui sont encore plus mal logées en moyenne que les hommes. Donc, c'est peut-être complexe, c'est pas très sexy comme enjeu, mais c'est vraiment important de le comprendre puis de se mobiliser pour que les choses bougent, parce que c'est petit par petit que ça a commencé déjà à se produire, et le pic, si on veut, le sommet des fins de convention va arriver dans quelques années. Donc, si on n'a pas prévu le coup, si les gens vont être laissés vraiment.
On va être surpris. Donc, c'est le temps d'aller chercher un papier puis un crayon. On va vous donner les informations de lieu, de date et d'heure pour cette manifestation-là après la chanson que Riff nous a préparée.
On va écouter Amira.
Hey, C'est Squatel cette semaine. On reçoit Véronique Laflamme pour nous parler d'une grande manifestation qui va avoir lieu ce samedi pour sensibiliser la population en général, le gouvernement fédéral en particulier, et aussi les habitants et habitantes locataires des logements sociaux sur l'enjeu de la fin des conventions d'exploitation de ces logements sociaux-là. Donc, c'est quand cette manifestation-là et où est-ce que les gens peuvent la joindre?
C'est samedi et le rassemblement est au Jardin Saint-Roch, ou connu aussi sous le nom de Parc des 10 millions, donc à l'intersection de la Couronne et Charest, à 13h. Puis la marche va se dérouler dans le quartier, la manif en fait. Ça va être une super manif festive et tout, avec des percussions. Et ça se passe dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. Donc des centaines de personnes d'ailleurs au Québec vont être mobilisées, vont venir à Québec pour l'occasion. Puis évidemment, c'est important que la population de Québec se mobilise. Donc 13h au Parc Saint-Roch.
Donc, tu as parlé de quelque chose juste avant la pause musicale. Tu as dit quelque chose à propos des personnes ayant un besoin impérieux de logement. Je t'ai pas interrompu, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, besoin impérieux de logement, c'est un terme utilisé par le gouvernement fédéral pour englober, en fait, pas seulement les personnes qui consacrent une partie disproportionnée de leurs revenus au logement, mais aussi celles qui vivent dans un logement inadéquat, donc qui, pour la composition du ménage, ont un nombre insuffisant de pièces, par exemple, ou encore dans un logement en mauvais état, insalubre. Parce que souvent, comme au Frappru, on utilise beaucoup le nombre de ménages qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Parce que, selon les normes, encore là, officiellement édictées par les gouvernements, c'est maximum 30 % de son revenu qu'on devrait consacrer au logement pour être capable de subvenir à ses autres besoins essentiels puis de vivre décemment. Malheureusement, au Québec, ce n'est pas le cas de milliers de locataires. On parle de plus de si je ne me trompe pas, 400 000 locataires, ou 200 000 plutôt. À Québec, seulement ce nombre-là, je cherche mes chiffres, là, je les sais pas par cœur, mais le nombre est assez inquiétant de ménages qui, à Québec, consacrent plus de cette norme-là de 30 % à se loger. Pour vous donner une idée sur l'ensemble des locataires, en fait, je me fais prendre les culottes à terre, en fait, j'ai pas ma statistique, mais je peux vous dire en tout cas que parmi les ménages qui consacrent plus de 30 % à leurs revenus pour se loger, 40 % sont des femmes. Mais souvent, ça c'est les ménages qui ont à leur tête une femme, mais si on regarde les familles monoparentales, c'est 30 % les personnes âgées, 48 % les personnes seules, 48 %. Donc, si on fait un amalgame de tout ça, c'est majoritairement des femmes qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Donc, les besoins impérieux, c'est un peu plus large que juste dans le fond, la capacité de payer, ça inclut aussi les personnes qui sont mal logées, qui ont un logement inadéquat ou trop petit. Parmi celles-là, on dit que c'est 23 800 ménages locataires à Québec qui ont des besoins impérieux de logement, donc c'est 20 %. C'est quand même une personne sur cinq, un ménage sur cinq. Donc, il y a des besoins et c'est drôle parce que hier, à Québec, on faisait la présentation du rapport de la Commission populaire sur le droit au logement qui s'est déroulé à l'automne, qui a traversé, en fait, toutes les régions administratives du Québec, qui a débuté au Nunavik, qui a terminé au Lac-Simon. Ça serait un autre sujet en soi. Mais tout ça pour dire que... lors de la commission, il y a eu une cinquantaine de personnes, beaucoup de groupes, autant du centre-ville que de Neuchâtel, de Beauport, de Charlebourg, de Sainte-Foy, qui sont venus parler des enjeux dans leur quartier au niveau du logement. Puis ça nous a permis de faire un portrait assez détaillé de ce qui se passe à Québec. Donc oui, il y a les statistiques, mais il y a aussi des phénomènes inquiétants comme la construction de condos. C'est deux fois plus de condos que de logements locatifs qui se construisent actuellement à Québec. Et le parc de logements locatifs, lui, ça me nuise parce qu'il y a beaucoup de transformations de logements locatifs en condos, entre autres dans Limoilou, de plus en plus dans Saint-Sauveur. C'est même dans Saint-Sauveur le quartier où il y a le plus de transformations, si ma mémoire est bonne, l'année passée. Ces logements-là se perdent, ne sont plus des logements locatifs et ça chasse souvent les gens de leur milieu de vie parce qu'ils trouvent pas... Souvent, c'est des personnes qui se font reprendre leur logement, qui habitaient là depuis longtemps, qui payaient donc un prix qui était... correct c'est vraiment beaucoup de drames humains, de craintes en fait, d'insécurité actuellement que vivent les locataires de Québec, et alors que la sécurité d'occupation, c'est vraiment un aspect important du droit au logement tel que reconnu par les Nations Unies. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de la pénurie dont on a beaucoup parlé dans les dernières années à Québec, parce que encore récemment, la région métropolitaine de Québec est une des régions métropolitaines encore les plus touchées par la pénurie de logements, même si le taux d'inoccupation continue d'augmenter. On le voit d'ailleurs avec les pancartes allouées actuellement. Mais cette pénurie-là de 10 ans, elle a eu comme impact une hausse vraiment drastique des prix. Le loyer moyen, d'ailleurs, est plus élevé maintenant pour un 4,5 à Québec qu'à Montréal. Et la discrimination aussi s'est accentuée beaucoup, notamment une discrimination qui touche les femmes, chefs de famille, monoparentales. Les familles se font discriminer de plus en plus pour avoir accès au logement, mais aussi les personnes à cité sociale. Et on ne parlera pas des personnes, en guillemets, de couleur ou qui n'ont pas un accent québécois dit de souche. Donc, il y a vraiment tous ces phénomènes-là, mais en plus, il y a vraiment des inquiétudes à avoir sur l'avenir du parc de logements locatifs et aussi à quel type de logement on a accès? Parce que quand on parle de droit au logement, on parle d'accès hein, au logement carrément. Mais cet accès-là au logement, en plus de se faire sans discrimination puis à un prix qui ne nous empêche pas de subvenir à nos autres besoins essentiels, bien, c'est d'y avoir accès tout simplement. Et quand il se construit que des logements de luxe à 1 000 et plus ou des tours à condos, comme il s'en fait plusieurs présentement à Sainte-Foy et comme on en projette certaines au centre-ville, c'est pas juste une question de hauteur, c'est une question de qui va vivre là, les écoquartiers, qui va y vivre et où vont aller les personnes à revenus plus modestes qui traditionnellement habitaient aux alentours. Donc, il y a vraiment des grandes inquiétudes actuellement. Il y a un développement galopant et ce développement-là, pour qui il se fait, qui décide de où s'en va la ville, ça pose des grandes questions. Mais les locataires de Québec sont au cœur de ces enjeux-là. Donc, il y a plus largement que l'enjeu des fins de convention fédérale, il y a plusieurs autres enjeux qui touchent les autres locataires et qui sont liés, hein, parce que dans le fond, on parlait de la fin des subventions fédérales, c'est des logements à prix modique, entre guillemets, des logements subventionnés qui vont se perdre, mais il se construit pas assez de logements sociaux actuellement et sur le marché du logement locatif ordinaire, il s'en construit plus. Et en plus, celui-là qui existe, le logement locatif ordinaire, ben, il a augmenté beaucoup. Et en plus, il se fait transformer en condo. Donc, c'est loin d'être rose. Et pour toutes ces raisons-là, ben, non seulement il faut faire pression sur le gouvernement fédéral, mais il faut plus largement se mobiliser pour le droit au logement et s'organiser dans nos quartiers.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Véronique Laflamme. On va écouter une petite pièce et je vais revenir pour un bref calendrier parce que la semaine prochaine, c'est un enjeu très relié. C'est la semaine de l'itinérance à Québec.
On va écouter Blue King Brown avec One Day.
other people if they benefit alone. So these men and women who follow in the sage of self-destruct take the land and misuse and abuse until everything's fucked up. This system's forced on you to bring you down. It would be wise of you to stand your ground. It seems that greed just keeps them on and on. Look at all the pain they start and shit their hearts. Look at all the pain they start and shit their hearts. Look at all that pain they start to stop you on. I know one day we will know what freedom is. So one day
Ben Cisquatel pour cette semaine. On se retrouve dans deux semaines avec notre dernière émission de la saison. Entre-temps, on vous invite à vous joindre à la grande manifestation de défense pour les logements sociaux organisée par le FRAPRU qui se déroule ce samedi à partir du Jardin Saint-Roch, rue du Parvis à Québec, à 13h. Et sur un thème relié, la semaine prochaine, c'est la semaine de l'itinérance à Québec. Donc, le thème cette année, c'est « Les nuances de ma rue ». Et la grande activité publique, c'est un panel de réflexion jeudi le 16 mai à 13h. Ça se déroule à l'ENAP 555 boulevard Charest-Est à Québec. Et c'est le temps de venir poser toutes les questions qui vous passent par la tête au sujet de l'itinérance. Ça va être animé par Claude Bernatchez. Donc, merci beaucoup et restez à l'écoute de CKIA FM.
Ici Simon Lavoie. Chaque dimanche, en musique et en entrevue, je vous fais découvrir un interprète ou un compositeur classique vivant aujourd'hui au Québec. C'est le rendez-vous des mélomanes, présence classique, chaque dimanche de 9h à 11h.
Amoureux de la langue